à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2026 du podcast des Côtes. Aujourd'hui, nous vous présenterons les habituelles actualités animées par Kylian et Erken. Ensuite, Luce nous parlera de son aventure au Club Théâtre avec une interview spéciale de Monsieur Zayonet. Paco et Martin nous feront découvrir les années collège des 3e avec une interview de quelques élèves. Enfin, Liam et Alexandre finiront en beauté avec l'interview de Kevin Roland, un skieur acrobatique. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre rubrique consacrée aux sorties culturelles autour de Bourg-en-Bresse.
L'été approche et de nombreuses animations sont proposées dans notre région. Que vous soyez passionné d'histoire, amateur de découvertes, ou simplement à la recherche d'activités à faire en famille ou entre amis, voici notre sélection.
Nous commençons avec une animation originale qui nous fera voyager dans le temps. Le samedi 4 juillet, le parc de la jeunesse laïque à Bourg-en-Bresse accueillera une grande fête romaine. Pendant toute une journée, le site se transformera en véritable camp romain. Grâce à l'association Lorica Romana, spécialisée dans la reconstitution historique, les visiteurs pourront découvrir comment vivaient les légionnaires et les habitants de l'Empire romain. Des démonstrations, des ateliers et des activités pédagogiques permettront aux petits comme aux grands de mieux comprendre cette période fascinante de l'histoire.
Toujours le 4 juillet, une autre ambiance vous attend au domaine des incontournables avec la grande fête de l'été. Dès le matin, les visiteurs pourront découvrir la ferme, rencontrer les animaux, profiter des jeux gonflables et rencontrer des producteurs et artisans locaux. L'événement se déroulera dans un cadre naturel particulièrement agréable. En soirée, place à la convivialité avec une paella géante, suivie d'un karaoké, une belle occasion de partager un moment festif entre amis ou en famille.
Du côté de Montrevel-en-Bresse, les marchés nocturnes feront leur retour tout au long de l'été. Chaque mercredi soir, de début juillet à fin août, créateurs, artisans et commerçants locaux présenteront leurs produits dans une ambiance détendue. Les visiteurs pourront se restaurer sur place grâce au food truck, profiter de la terrasse ou encore dénicher quelques objets originaux. Les enfants ne seront pas oubliés avec des animations comme la sculpture sur ballon ou la papa. Et bonne nouvelle, l'entrée est entièrement gratuite.
Restons à Montrevel-en-Bresse avec une activité particulièrement moderne proposée par la médiathèque intercommunale le vendredi 10 juillet. Les adolescents pourront participer à une expérience de réalité virtuelle intitulée « Mission voyage virtuel au Japon ». Grâce à des casques spéciaux, ils auront l'impression de se promener dans les rues de Tokyo sans quitter la Bresse. Une façon ludique et innovante de découvrir une autre culture et de voyager autrement.
Pour ceux qui aiment le patrimoine et les vieilles pierres, le château de Treffort propose plusieurs visites guidées pendant l'été. Accompagnés d'une médiatrice, les visiteurs parcourront les différentes salles du château pendant plus d'une heure. Ils découvriront de nombreuses anecdotes, des secrets historiques et l'histoire de ce monument qui domine le village de Treffort. Une visite idéale pour mieux connaître le patrimoine du territoire.
Le dimanche 12 juillet aura lieu la 41e édition de la fête du poulet bressan à Saint-Nizier-le-Bouchou. Cet événement met à l'honneur l'un des symboles gastronomiques les plus célèbres de notre région, le poulet de Bresse. Tout au long de la journée, les visiteurs pourront déguster des repas traditionnels, assister à des démonstrations de danse, des associations locales qui perpétuent les traditions bressanes. Cette année, une nouveauté originale fera son apparition. Un concours du chant de coq organisé à 16h. Une animation qui promet d'attirer les curieux.
Enfin, les festivités du 14 juillet se dérouleront à Bourg-en-Bresse avec une grande guinguette et un bal populaire organisé sur l'esplanade du Bastion. Dès l'après-midi, la chorale Bourg-en-Cœur présentera son nouveau spectacle. Ensuite, place à une ambiance guinguette avec de la musique festive et entraînante. La soirée se terminera par une grande animation dansante avec un DJ. Cet événement gratuit permettra à chacun de célébrer la fête nationale dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Comme vous pouvez le constater, les semaines à venir seront riches en découvertes et en animations dans notre région. Histoire, gastronomie, patrimoine, nouvelles technologies ou encore musique, il y en aura pour tous les goûts.
C'est la fin de notre agenda culturel. Nous espérons que ces idées de sortie vous donneront envie de profiter pleinement de l'été autour de Bourg-en-Bresse.
Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de notre podcast.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre cher club podcast pour notre 15e édition. Cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je vous ai manqué ? Aujourd'hui, pour ma dernière édition, et oui, l'année prochaine, je commence mon chemin au lycée. Sniff. Je vous parlerai du club théâtre. Je commencerai par vous parler de son histoire, puis de mon expérience personnelle. Il était une fois Monsieur Zahinet, qui avait un rêve, faire du théâtre. Il avait alors décidé de créer le club théâtre. En quelle année avez-vous commencé le club théâtre ?
Alors, si je me souviens bien, la toute première édition, c'est devait être 2021-2022. On revenait tout juste du Covid, donc on jouait avec des masques dans ma salle, qui était un préfabriqué à l'époque. On faisait plusieurs petites scénettes. Je me souviens qu'on avait fait un petit spectacle devant, je sais pas, 10 profs en fin d'année dans le préfabriqué, notamment sur le thème de Cendrillon.
Voilà. Quel a été votre premier spectacle et comment s'est-il passé ?
Alors, je vais parler du premier vrai spectacle. Ça a été l'année suivante avec Madame Garny, qui était professeure d'éducation musicale. Elle avait vraiment envie de faire un... Elle allait bientôt être à la retraite et donc Elle avait envie de faire un dernier gros spectacle qui mélange du théâtre et puis aussi de la musique. On a travaillé sur le thème des Mille et Une Nuits. C'était un très très beau projet, donc avec des chansons soit de musique de Disney ou de comédie musicale sur les Mille et Une Nuits. Nous, on avait travaillé avec des élèves, plutôt des grands hein. À l'époque. On avait réécrit des textes sur des contes des Mille et Une Nuits. On avait choisi trois, je crois, Aladdin, il y a quelque chose sur Ali Baba aussi dans mes souvenirs. Et on avait intégré le cirque. Madame Ravel aussi avait participé avec des élèves de cirque. C'était un premier gros projet, un vrai spectacle à l'auditorium de Perona. Et vraiment, c'était une belle réussite déjà.
Quel était votre spectacle préféré depuis 5 ans ?
Ah, c'est dur d'en choisir un. Vraiment. J'ai énormément aimé le spectacle de cette année sur Versailles. Peut-être parce que j'ai écrit l'histoire moi-même. Là, vraiment, j'ai tout écrit de A à Z. Donc, je pense que ça a pu jouer. Depuis petit, j'avais très envie aussi de monter Les Misérables, qu'on a fait donc l'année précédente. Là, j'ai pas écrit l'histoire. Hein, je me suis simplement... Enfin, j'ai écrit les dialogues, mais je me suis inspiré. L'histoire, évidemment, elle est de Victor Hugo. Et c'est un spectacle que moi-même, j'avais joué quand j'étais au collège. Alors, pas tout à fait de la même manière, mais un spectacle de chorale. Et vraiment, c'est un spectacle qui me tenait à cœur. Donc, je pense que sur ces deux-là, je vais avoir du mal à trancher.
Que préférez-vous faire au club ?
Ce que je préfère, il y a plusieurs choses que je préfère. C'est déjà passer du temps avec les jeunes, les voir évoluer entre les premières répétitions de septembre et ce que vous êtes capable de faire en mai ou en juin sur scène. Pour certains, il y a un fossé gigantesque. Et puis, j'aime voir les élèves se mélanger, des élèves qui ne se connaîtraient pas, qui ne parleraient pas forcément les uns avec les autres, et puis passer des bons moments de rigolade quand même avec vous. Il faut que ça reste un moment de détente et en même temps que ce soit, c'est quand même du vrai travail, hein, et on arrive à aboutir à de super choses, donc c'est vraiment ce que je préfère.
Une anecdote à nous raconter ?
Avec Madame Dottal, une année, donc elle est avec moi en coulisses souvent, derrière le rideau, on regarde le spectacle et nous avions pris le fou rire sur... alors c'était un spectacle qui s'y prêtait, hein, qui était censé être drôle, c'était Le Petit Train de l'humour, oui. Il y a quelques années, et c'était Célien qui était sur scène et qui nous faisait mais hurler de rire. Et on a eu beaucoup de mal. Je crois que c'est... Oui, il jouait l'avare, c'est ça, avec le... On lui avait volé son trésor. Et j'ai eu beaucoup de mal. Après, il fallait que je souffle le texte pour la scène suivante et j'avais beaucoup de mal à me retrouver dans mon texte. Voilà. Après, au-delà des anecdotes, c'est des souvenirs. Plein de souvenirs. Et j'aime bien parfois reparcourir les photos, voir à quel point certains ont changé entre la sixième et la troisième.
Et voilà, nous avons à présent tout sur ce merveilleux club qui gagne chaque année popularité auprès des élèves. À présent, c'est à moi de vous parler de ce club qui, depuis maintenant 4 ans, rythme ma scolarité. J'ai découvert ce club quand j'étais en CM2 grâce à ma grande sœur qui en faisait partie depuis l'origine. Cette année-là, le spectacle traitait des Mille et Une Nuits. C'était un merveilleux spectacle mêlant le cirque, la chorale et le théâtre. En sixième, je décide alors d'intégrer cette troupe avec comme premier spectacle « Trois petits mythes et puis s'en va » dans lequel je jouais le rôle de Mamie Méda et Andromède. Cette pièce mêlait l'humour et la mythologie grecque. Ce fut une révélation pour moi, un moyen de combattre mon stress tout en m'amusant. L'année suivante, le spectacle était composé de scénettes humoristiques qui revisitaient les grands classiques comme Le Malade Imaginaire, L'Avare, Les Fourberies de Scapin et La Cantatrice Chauve. Dans ce spectacle, j'incarnais Martine dans Le Médecin Malgré Lui, ainsi que Madame Martin dans La Cantatrice Chauve. Ensuite, en quatrième, nous avons repris Les Misérables de Victor Hugo, accompagné de la chorale. Cette année-là, je jouais le rôle de Claxou et j'étais à la chorale. Et pour finir, en beauté, durant mon année de troisième, j'ai interprété le rôle de Louis XIV dans la comédie musicale du Roi Soleil. Durant cette pièce, on suivait la vie de la cour de Versailles avec les nombreuses conquêtes du roi, mais aussi un complot. On voulait assassiner le roi. Quelle drôle d'idée! Un être si gentil et si attentionné envers son peuple. C'est donc avec ce chef-d'œuvre que je termine mon aventure au Club Théâtre, avec un petit pincement au cœur, mais surtout beaucoup de souvenirs.
Au début de l'année, nous avions tendu notre micro au 6e. Il venait juste d'arriver au collège, un peu stressé, un peu perdu, mais surtout curieux de découvrir cette nouvelle aventure. Et aujourd'hui, l'année touche déjà à sa fin. Cette fois, ce sont les troisièmes qu'on a voulu rencontrer. Ceux qui, comme nous, s'apprêtent à quitter le collège Les Côtes après 4 années remplies de souvenirs.
Parce que nous aussi, on est en troisième. Et en préparant cette émission, on s'est rendu compte d'une chose, on a un peu grandi ici.
Entre les premières journées où on se perdait dans les couloirs, les fous rires entre amis, les sorties, les cours qu'on aime, ou un peu moins.
Tout ça fait maintenant partie de nos souvenirs. Et même si on a hâte de découvrir le lycée, ça fait quelque chose de se dire que cette aventure se termine déjà.
Alors, on leur a posé une question toute simple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on quitte le collège?
Avant de commencer, on laisse nos invités se présenter.
Bonjour, moi c'est Isor Charlet Bartnik et je suis en 3ème 3.
Bonjour, moi c'est Quentin Bertetto Rodriguez et je suis également en 3ème 3.
Bonjour, je m'appelle Paul Radorel et je suis en 3ème 4.
Bonjour, je m'appelle Merlin Holner et je suis en 3ème 4 aussi.
Bonjour, je m'appelle Augustin Belfier et je suis en 3ème 4 également.
Et bonjour, je m'appelle Luce Honner, je suis élève de la classe de 3ème 3.
Quand tu repenses à ton arrivée en 6ème, quel souvenir te revient en premier?
Le stress de cette arrivée et d'être dans une bonne classe.
Je me souviens que j'étais un peu dégoûtée parce que j'étais pas dans la même classe que mes copines. Donc je pensais que j'allais être seule toute l'année. Et j'avais décidé, quand on visitait le collège, d'aller parler à des gens que je ne connaissais pas. On avait mangé ensemble le midi, on était devenus amis.
Est-ce qu'il y a un moment au collège que tu n'oublieras jamais?
Ouais, quand on est arrivé en 4ème, notre prof principal, qui s'appelait Monsieur Frenéa, et c'est la première fois qu'on l'a vu, s'est levé et il a crié dans toute la classe que on allait passer une très bonne année et qu'on allait tous bien s'entendre, alors qu'il ne se connaissait pas.
Moi, je pense que j'ai parlé du voyage à Naples. C'était mon premier voyage scolaire et franchement, c'était palpitant, le début dans l'avion, etc. Pour arriver en Italie.
Quelles ont été vos plus belles rencontres ici?
Moi, j'ai rencontré et re-rencontré de nombreuses personnes, dont Maïssa, qui est une de mes amies actuellement.
Et moi, je dirais que c'est Léna Moncel.
Est-ce qu'il y a un professeur ou un adulte, ou encore une autre personne du collège, qui t'a marqué? Et pourquoi?
José Younes, c'est vraiment un prof formidable et ses cours sont impressionnants.
Du coup, pour commencer, c'est Madame Arabi, qui était ma prof de français en 5e et qui m'a fait apprécier vraiment la matière du français. Et la même chose pour M. Frenéa, qui était également un prof de français en 4e.
Et pour moi, c'est M. Zayonnet qui a animé le club théâtre et les cours de latin et de grec. Et aussi Mme Mazer, qui m'a appris à aimer l'allemand pendant 4 années. Donc merci à eux deux.
En fait, tous les profs m'ont marqué parce qu'ils sont tous différents, mais toujours très intéressants. Ils ont tous des caractères différents, mais toujours une belle âme et...
Quel est l'endroit du collège qui va te plus te manquer?
Je dirais que c'est notre petite table de self, où on s'assoit toujours, genre dans le petit coin en bas à gauche du collège. Voilà.
Quelle est l'anecdote la plus drôle ou la plus marquante que tu as vécue ici?
Je crois que c'était en 6ème ou en 5ème et c'était à la toute fin de l'année. Et donc, il y avait de la musique dans la cour et il y avait un peu tout le monde qui dansait. Et je me souviens qu'il y avait Monsieur Lemoine, qui était CPE à l'époque, qui avait fait la roue dans la cour. Et c'était très drôle.
Les cours de Monsieur Fréna, quand on allait faire du théâtre dans la cour de récréation.
Si tu pouvais revivre une seule journée de tes années de collège, laquelle choisirais-tu et pourquoi ?
Le voyage en Espagne, c'était très instructif. Même si les voyages en bus étaient un peu trop longs, c'est normal. Dans la famille d'accueil, on mangeait très bien. C'était un très bon voyage.
Qu'est-ce que le collège t'a appris en dehors des cours ?
Eh bah, ben, ça m'a appris qu'il fallait vraiment s'assumer, même si les autres, ils n'assument pas trop qui tu es et tout. Et qu'il fallait vraiment pas hésiter à aller voir les gens.
Il m'a tout d'abord appris à gérer mon stress autrement. Par exemple, quand on devait passer à l'oral ou bien sûr avec le club théâtre que j'ai fait pendant 4 ans. Et puis, il m'a fait évoluer, bien sûr, de la 6e jusqu'à la 3e. J'ai vu mon évolution et beaucoup de maturité.
Est-ce que vous vous sentez prêt à partir au lycée ?
Ouais, totalement. Je pense que j'ai fait tout ce que je devais faire au collège.
Oui aussi, donc j'ai hâte d'être au lycée, mais en même temps je profite de ma 3e parce qu'on reviendra plus jamais au collège, donc ça me rend un peu triste.
Ouais, totalement d'accord.
Et enfin, si tu pouvais adresser un dernier message aux futurs 6e, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais qu'il faut vraiment profiter du collège, c'est parmi les meilleures années de notre vie. Et que donc voilà, il faut bien écouter en cours, que faut pas avoir peur de pas avoir d'amis au début parce que ça vient au fur et à mesure, et que vous allez vraiment vous amuser.
Moi je dirais que... Il faut vraiment faire comme on le sent et que le collège c'est parfois dur parce que les gens ils sont pas sympas entre eux, vraiment pas sympas. Et du coup faut pas trop se poser de questions et ouais continuer comme on le sent.
Alors moi tout d'abord je leur dirais de profiter un maximum de ces 4 années, ça passe très vite. Oui c'est ça, on se fait de nouveaux amis mais ça reste relativement court, 4 années. Et ça va encore plus s'accélérer au lycée, donc c'est là aussi on se fait un grand groupe d'amis. Et aussi prendre beaucoup de bagages supplémentaires parce que c'est à partir de ce moment qu'on fait la différence plus tard.
Merci à vous.
De rien. Hello.
En écoutant leurs réponses, on se rend compte que le collège, ce n'est pas seulement des salles de classe.
C'est aussi des souvenirs qu'on garde longtemps, des moments simples qui deviennent importants avec le temps.
Et finalement, cette émission, c'est aussi un peu notre au revoir.
Alors, à tous les 3e.
Merci pour cette année et pour ces souvenirs.
Et bonne route pour la suite.
On espère que vous n'oublierez jamais le Collège des Côtes.
Aujourd'hui dans Actu Sport, nous avons le plaisir d'accueillir l'un des plus grands skieurs freestyle français de sa génération. Né le 10 août 1989 à Bourg-Saint-Maurice, Kevin Roland est spécialiste du half-pipe, une discipline spectaculaire du ski acrobatique où les athlètes réalisent des figures dans un immense demi-tube de neige.
Sa carrière est remplie de succès. Il devient notamment champion du monde en 2014 lors des Jeux Olympiques d'hiver de Sochi. Il rentre dans l'histoire en remportant la médaille de bronze, la première médaille olympique française en ski half-pipe.
Historique, j'aurais été vraiment déçu de ne pas être sur la page historique de la grande première du halfpipe aux Jeux Olympiques. Donc j'y suis, ça c'est fait, ça a vie, donc trop de la balle.
Mais Kevin Roland est aussi connu pour son incroyable courage. En 2019, alors qu'il tente de battre un record du monde de saut à la plane, il est victime d'une très grave chute. Blessé à de nombreux endroits, du corps est plongé dans le coma. On a réussi à pourtant devenir au plus haut niveau et participer même aux Jeux Olympiques de 2022 à Beijing. Son parcours est un véritable exemple de sa persévérance, de passion et de résilience. Comment as-tu commencé le ski et qu'est-ce qui t'a donné envie de pratiquer le freestyle ?
J'ai commencé le ski à l'âge de 2 ans, tout jeune, et j'ai attaqué le ski freestyle plus vers 11 ans. Et ce que j'ai aimé tout de suite dans le ski freestyle, c'est l'aspect liberté. De pouvoir partir sur les pistes et il n'y a pas de règles. Chaque jour, tu fais ce que tu veux, ce que tu as dans la tête. Donc vraiment ce sentiment de liberté.
Tu as remporté une médaille olympique à Sochi en 2014. Quel souvenir gardes-tu de cette expérience ?
La médaille olympique de Sochi, j'en ai forcément de très bons souvenirs. C'était un événement très stressant parce que c'était la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que le ski freestyle était au programme. Et donc 4 ans à se préparer pour 30 secondes de compétition, c'est énormément de pression. Mais le souvenir que j'en ai, c'est que le fait d'avoir performé, d'avoir réussi à ramener une médaille, c'était une immense fierté qui est plus intense que sur les autres compétitions du fait que les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. Et si on se loupe, il faut attendre 4 ans pour recommencer, essayer de recommencer. Donc vraiment beaucoup de pression et beaucoup de fierté.
Après ton grave accident en 2019, qu'est-ce qui t'a aidé à garder le moral et à revenir au haut niveau?
Après mon grave accident en 2019, ce qui m'a aidé à garder le moral et revenir au haut niveau, c'est la positivité. Parce que j'avais tout pour broyer du noir, hein. J'étais sur une chaise roulante, je pouvais plus faire de sport, c'était pas du tout sûr que je refasse du ski un jour. Mais malgré tout, j'étais en vie et j'ai essayé de garder énormément de positivité. Alors en même temps, j'ai eu un enfant, donc ça m'a beaucoup aidé pour rester positif et pour me concentrer justement sur les choses positives, en l'occurrence mon enfant. Et les bienfaits de rester vraiment dans le positif, ils sont assez impressionnants parce que je pense avoir guéri plus rapidement grâce à ça. Je pense avoir pu réeffectuer des performances grâce à ça. Donc vraiment, si on est un mot, c'est la positivité. Quand tout va mal, c'est la seule clé qu'on peut utiliser.
Avant une grande compétition, avais-tu une routine ou une habitude particulière pour gérer le stress?
Avant une grande compétition, avais-tu une routine ou une habitude particulière pour gérer le stress? Oui. Alors moi, ma routine, c'est de me mettre vraiment dans ma zone, dans ma bulle. Pour ça, j'ai besoin de musique, j'ai besoin d'écouter de la musique un peu énervée. Alors pour ma part, c'était du rap, etc. Mais une musique qui me fasse sentir fort. J'ai besoin de me persuader que c'est moi le meilleur. Donc j'essaie de gonfler mon ego au départ. Donc la musique m'aide beaucoup pour ça. Et ensuite, c'est juste de me focaliser sur la technique et de me répéter la technique pour ne pas laisser mon cerveau penser à imagine si je gagne, imagine si je perds, penser à la conséquence. Le fait de me remplir le cerveau de choses techniques, donc des choses qui vont me servir, ça m'empêche de divaguer, de penser à autre chose que la performance.
Quel conseil donnerais-tu à des collégiens qui rêvent de devenir sportifs de haut niveau?
Eh bien déjà, de continuer à rêver, parce que c'est le premier pas qui compte, c'est de rêver. Et souvent, en grandissant, on rêve de moins en moins. Et malheureusement, c'est là c'est que en rêvant qu'on arrive à accomplir de grandes choses. Après, ça suffit pas de rêver. Ensuite, faut s'armer de détermination. Faut rien laisser au hasard, faut tout donner pour aller chercher ses rêves. Faut être résilient parce qu'il va y avoir des bâtons dans les roues. Il faut le savoir, ça va jamais marcher comme sur des roulettes. Et malgré tout, il faut continuer en s'accrochant au rêve de départ.
Aujourd'hui, quels sont tes projets et tes objectifs?
Aujourd'hui, j'ai terminé ma carrière de compétiteur. Et je suis toujours sur les skis, mais plus pour le côté artistique. Donc je produis des vidéos chaque année. J'essaie d'avoir une vidéo originale qui ne s'est jamais trop fait. Et que je produis avec ma boîte de production que j'ai créée aussi. Donc c'est moi qui produis mes films. Et en plus de ça, l'objectif c'est de faire grandir cette boîte de production. Et je travaille sur toutes sortes de projets, même en dehors du ski, donc sur les Jeux Olympiques, sur le CNOSF, pour des marques, pour la télé, pour Warner Bros, pour Eurosport, etc. Donc le but, c'est de faire grandir cette boîte de production et de continuer à m'amuser sur les skis, à faire des projets fun et impressionnants.
Merci Kevin d'avoir répondu à nos questions. C'est la dernière édition d'ActuSport pour cette année. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Bonnes vacances à tous. On espère que ça vous a plu. À bientôt pour le prochain épisode. Au revoir à tous les troisièmes et bonne continuation.